de 2018 à 2022. Mais en fait, elle a été aussi, comme peut-être certains d'entre vous le savent aussi, la première Française championne du monde de natation. La seule titrée de la natation française à Sydney, qui a auprès ouvert la porte à plein d'autres titres. Donc elle a ce parcours sportif de haut niveau. Elle a été aussi conseillère régionale d'Île-de-France pendant 5 ans, je crois, 2010-2015. Donc toutes ces expériences-là, et aussi elle est fondatrice et elle travaille aussi dans deux associations de formation sur l'enseignement de la natation et la peur de l'eau, etc. Donc voilà, ça fait tout un ensemble d'expériences. Et donc, à partir de là, elle va nous parler donc comment, du point de vue des institutions aussi, et peut-être aussi en tant que personne, comment elle a vécu quel est son rapport à cette problématique-là, et comment aussi, après, à partir de là, ils ont essayé en France de mettre en place une politique pour y répondre. Merci.
Merci Bruno, bonjour, rebonjour à toutes et à tous, parce que j'ai déjà pris la parole tout à l'heure. Alors, comme je vous l'ai dit, moi, mon objectif en venant ici, c'est vraiment que vous puissiez vous impliquer vous-même dans la construction prochaine, je l'espère, d'un module de formation spécifique qui rentrerait dans le cursus formation STAPS, ici à Caen. Mais aussi de manière plus générale, et je vais faire appel à vous pendant toute mon intervention aussi, à votre capacité de réflexion, d'anticipation et de projection, pour qu'on puisse ensemble peut-être partir de cette expérience ici, de mon témoignage et puis des questions que ça va susciter chez vous, pour qu'on puisse travailler avec les autres universités pour essayer de mettre en place un module qui n'existe pas encore, en fait, auprès des futurs éducateurs sportifs, des futurs professeurs d'EPS et futurs chercheurs aussi, parce que j'imagine que parmi vous, il y en a qui vont aller vers aussi des études plus longues et vers ces travaux de recherche, pour qu'on puisse parler, j'allais dire, de ce sujet de manière plus large qui est l'éthique et l'intégrité dans le sport, qui, vous avez vu dans l'excellente intervention d'Élise tout à l'heure, regroupe et recoupe plein de sujets différents, qui vont des discriminations à une réflexion fondamentale sur la matière dans laquelle vous êtes engagé. Et je me suis bien rendu compte que ça a bougé pas mal de convictions chez chacun d'entre vous. Et aussi, évidemment, qui va toucher de près ou de loin ce sujet pour lequel je suis venue devant vous ici, c'est les violences sexuelles dans le sport. Alors, du coup, je me permets juste de vous dire un peu quelques conseils sur l'intervention qui va quand même. Je vais essayer de parler pendant 45 minutes et puis après qu'on échange pendant une trentaine de minutes. Donc, prenez des notes au fur et à mesure sur votre téléphone que je vois que vous avez bien en main pour certains d'entre vous. Sinon, sur l'ordinateur ou les feuilles, comme ça, vous vous rappellerez à chaque moment où j'ai dit des choses, à quoi ça vous a fait réfléchir et vous pourrez me les poser en cours de route pour qu'on continue. Comme Élise tout à l'heure, et j'ai l'impression que vous attendez de nous un peu des solutions, des réponses toutes faites, j'en aurai parce que j'ai eu une expérience en tant que sportive, en tant que ministre, en tant que femme engagée dans le milieu associatif et sportif, mais je n'ai pas toutes les réponses. Et en fait, parfois, je vous retournerai la question et on essaiera de réfléchir ensemble à quelques solutions. Je ne me suis pas exprimée tout à l'heure, mais quelqu'un a posé la question de qu'est-ce qu'on peut faire pour changer cet état de fait d'une mixité pas suffisante dans le sport, comme si ça paraissait une montagne insurmontable. Là, j'étais la semaine dernière dans un jury, on a décerné des prix, et puis on a décerné un prix à une ancienne journaliste de l'équipe qui a monté elle-même, toute seule dans son coin, sans aucune aide de personne, un petit magazine qui s'appelle À fond, et qui est un magazine pour les enfants de 3 à 7 ans, qui parle du sport, mais qui en parle en comptant à chaque page combien de fois on parle d'un garçon qui fait du sport à haut niveau ou à moyen niveau, combien de fois on parle d'une fille, et en essayant d'équilibrer et la une du journal et toutes les pages de ce journal, aussi bien dans les photos que dans les articles, en parlant du sport masculin et du sport féminin à destination des enfants. Eh ben, pourquoi on l'a primé? Parce qu'on s'est tous dit, finalement c'est très intéressant, ça parle de mixité dans le sport et ça s'adresse à des enfants. Mais on l'a surtout primé parce que c'est la seule personne qui fait ça en France, en fait. Il n'y a personne qui a eu cette idée de faire une presse sportive en mixité qui s'adresse à des enfants. voilà, en sensibilisation, en prévention. Franchement, quand on est là et quand on est, même moi en tant qu'ancienne ministre des Sports pendant 4 ans, on se dit mais c'est juste pas possible qu'on soit à ce point-là nul en créativité, en idées. Donc moi, c'est ça aussi que j'attends de vous, quoi, c'est que vous puissiez voir dans votre domaine d'activité, si ce sujet vous intéresse, qu'est-ce que moi je pourrais faire à mon niveau pour m'engager sur cette question. Et ça peut être des choses aussi simples que ça et basiques auxquelles nos enfants pourraient nous faire penser et que nous-mêmes, en tant qu'adultes, on n'y pense pas. Parce qu'on est déjà dans un système avec toutes les représentations sociales dont a fait part Élise tout à l'heure et qui fait qu'on est enfermé dans un truc dont on ne peut pas sortir. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre des notes, comme ça, en cours de route, on pourra derrière rediscuter des sujets. Ce qui m'a paru important aussi, parce que je pensais qu'Élise allait le faire plus précisément, je sais que, je me souviens plus de son prénom, la jeune femme qui vient pour Colosse au pied d'argile tout à l'heure, qui sera après le film Slalom, va sans doute vous en parler. Mais je voulais juste vous le rappeler, parce que c'est vrai que vous êtes, pour la plupart, si vous avez choisi STAPS, amoureux de sport à minima, et au mieux pratiquant une activité sportive, à haut niveau, à moyen niveau, à pas très bon niveau peut-être. Mais si vous êtes là, c'est que vous sortez d'une carrière sportive, quelle qu'elle soit, et que vous voulez vous engager dans le sport. Vous allez être des éducateurs, des profs, et sans doute vous allez commencer votre métier, si vous ne l'avez pas déjà fait dans un cadre associatif, quand vous allez avoir 21, 22, 23 ans. Et ça me semble essentiel, juste que je vous fasse un petit rapide rappel à la loi. Ce qu'est la loi aujourd'hui en France, parce que vous allez sortir d'une carrière sportive, vous avez côtoyé des copains, des copines, vous avez passé ce cap des 18 ans, et à 18 ans, on ne vous a pas donné une carte qui dit voilà ce que vous avez le droit de faire et de ne pas faire une fois que vous avez 18 ans. Et vous allez vous engager dans un métier où en fait vous allez être sous le coup de la loi. Et je vais vous expliquer juste un cas pratique qui peut arriver demain, quand vous avez 21 ans et que vous tombez amoureux ou amoureuse, parce que c'est valable aussi pour les femmes, adultes, ou qu'il y a une jeune fille de, 14 ans, qui n'a pas beaucoup d'écart d'âge entre vous et elle, hein, et que vous vous dites, j'aimerais bien avoir une relation amoureuse, vous avez l'impression qu'elle aussi, c'est possible, ou que lui aussi, c'est possible, qu'il vous aime, qu'il vous apprécie, et que... En fait, si jamais vous êtes éducateur sportif et que cette jeune fille est sous votre autorité et que vous couchez ensemble, sachez que vous encourez, et c'est pas que vous encourez, hein, c'est que vous êtes sous le coup de la loi, 20 ans de prison, 150 € d'amende, et que ce sera considéré comme un viol. Alors je ne sais pas si tout le monde est conscient de ça dans cette salle. 150 000 € d'amende, voilà, mais ça on s'en fout. Ce qui est le plus important, c'est c'est un crime, c'est un viol et c'est 20 ans de prison. Et c'est un viol. Et vous vous en rendrez peut-être pas compte, ni elle, ni vous, au moment où ça se passera. Et ça peut durer pendant 30 ans. C'est-à-dire que si cette jeune fille ou ce jeune garçon change d'avis ou se dit ou réalise en fait ce qui lui est arrivé, hein, parce que c'est pas une question d'avis, c'est réalise ce qui lui est arrivé. Dans 10 ans, il ou elle va porter plainte, va se manifester, ou ses parents, ou son entourage, puisque nous, on encourage tous à ça, à ce que les gens autour de vous dénoncent de tels faits, le disent, le signalent. Eh bien, pendant 30 ans, on peut venir vous chercher, en tant que femme adulte, homme adulte, en situation d'autorité, et vous dire, vous accusez d'un viol, à juste titre, et que vous alliez en prison. C'est pareil pour une jeune fille ou un jeune homme qui a entre 15 et 18 ans, à partir du moment où il est dans votre groupe d'entraînement ou dans votre sous votre relation d'autorité, c'est combien ? 15 ? 15 ans. Il y a une notion de 5 ans d'écart qui a été inscrite dans la loi, mais vous encourez de la prison, évidemment des peines, des amendes, et ce sera considéré comme un viol. Là-dedans rentre la notion de consentement qui est très... en discussion en ce moment dans toutes les sphères. Est-ce qu'on l'écrit dans la loi ? Est-ce qu'on la décrit dans la loi ? Qu'est-ce qu'est le consentement ? Qu'est-ce qu'est un viol explicitement ? Tout ça, c'est encore en cours de réflexion. Mais voilà, je voulais vous le dire, parce que vous allez être des professionnels demain, déjà aujourd'hui peut-être, et que ces limites-là, il faut qu'on les connaisse, il faut qu'on les sache, il faut que ce soit clair. Alors, pourquoi ce sujet ? Pourquoi je suis venue de vous parler de ce sujet ? Parce que c'est vrai que ce sujet, tout à l'heure, il y a une question, c'est Élise qui l'a posé. Est-ce que ça vous concerne ? Est-ce qu'il y en a qui sont intéressés par le sujet ? Alors qu'en fait, on a donné des chiffres tout à l'heure qui disaient que, statistiquement, une personne sur 7 qui a fait du sport a connu une agression sexuelle. Donc, je vous laisse compter, là. Une sur 7. Donc il y en a forcément ici qui l'ont connu dans leur vie. J'avais des chiffres de mon collègue Adrien Taquet au moment où il s'est intéressé à l'inceste. Je ne sais pas si c'est exactement ça, si c'est 1 sur 4 ou 1 sur 6, 1 sur 4, 1 sur 5. Un enfant sur 5 a subi un inceste dans le cadre familial, dans sa vie. Ben voilà, je vous laisse compter parmi nous, je m'inclus dedans, évidemment. Donc évidemment que c'est des choses qui vous concernent. Et comme je disais à Bruno, quand il a, enfin, récemment, tout ce qui touche à l'intime, tout ce qui touche à la sphère privée, vous avez vu que ces dernières années, de plus en plus, on en a fait des aspects politiques et on en parle et on doit tous s'impliquer sur ces sujets-là, ça nous concerne. Même si on a l'impression que c'est des choses qu'on a vécues dans la sphère privée, bah maintenant, il faut qu'on en fasse des choses politiques, des choses démocratiques et qu'on en parle les uns aux autres. Et effectivement, on peut avoir des convictions politiques, on peut se dire que tout ça et toutes ces dérives sont liées, comme j'ai entendu tout à l'heure, au capitalisme. Moi, je viens d'un pays communiste, hein, je suis née en Roumanie, j'ai vécu pendant 10 ans dans un pays communiste. Et ça n'empêchait pas les sphères familiales d'être très refermées, de vivre tous ces sujets de domination des hommes sur les femmes. Voilà, je ne sais pas si ça a à voir avec un quelconque système politique, mais plutôt avec effectivement ces représentations sociales, historiques et... Et si je viens aujourd'hui vous parler, c'est pas en tant qu'ancienne ministre ou en tant que représentante politique de quoi que ce soit, c'est vraiment pour vous faire part de mon expérience en tant que ministre des Sports. Comme Bruno l'a dit tout à l'heure, moi avant d'être ministre, j'ai été engagée dans la sphère associative et avant ça, j'étais sportive. Je vous fais juste un petit topo rapide sur ma vie, comment j'ai vécu ces années avant le ministère, où peut-être vous avez plus entendu parler de moi. Moi, je suis arrivée en France quand j'avais 10 ans avec mes parents. On est arrivée avec un statut de réfugié politique. On a fui le système dictatorial qu'il y avait en Roumanie avec Nicolae Ceaușescu. On a demandé l'asile politique en France. On est resté ici, accueillis par la France. Et puis, petit à petit, je me suis... intégrée à cette nouvelle société, j'ai appris le français, j'ai appris les valeurs culturelles de la France, beaucoup grâce au sport, à un club de natation que j'ai fréquenté à Mulhouse, en Alsace, qui m'a amenée progressivement entre l'âge de 12 ans où j'ai commencé à nager là-bas et l'âge de 23 ans que j'avais en 98, à un titre de championne du monde, qui était le premier titre de championne du monde pour la France. Aucun garçon, aucune fille n'avait gagné une course à ce niveau-là avant. Et derrière, dans cette équipe, on a été très performants. Pour la petite anecdote, parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être plus d'actualité pour vous, un jeune homme qui s'appelle Léon Marchand, qui, j'espère, emportera un titre, ou à minima une médaille, mais on va tous croire pour un titre l'année prochaine. Son père, Xavier Marchand, a nagé la même après-midi que moi à Perth et a remporté une médaille d'argent dans la même dynamique en fait, qu'on a lancée avec ces 8 nageurs qui étaient présents à Perth en 98 et qui a continué derrière avec Laure Manaudou, Alain Bernard et toutes les grandes figures de la natation française. Suite à ça, quand j'ai fini ma carrière sportive, donc c'était 4 ans après les Jeux de Sydney, en 2005, j'ai décidé de m'investir dans le milieu associatif et j'ai pris déjà à ce moment-là la cause des femmes, j'allais dire, dans le milieu sportif très à cœur, puisque moi-même je venais d'accoucher de ma première petite fille, de ma première fille, et je trouvais que dans le milieu associatif, l'offre sportive qu'il y avait devant les yeux de moi en tant que maman et puis de mes copines en tant que maman, il n'y avait rien du tout qui concernait les femmes et notamment les femmes après accouchement. Et ensemble, on s'est dit, on va monter une association. Mes copines m'ont dit, comme tu sais enseigner la natation, essaie de nous enseigner ça et puis ça nous permettra de nous retrouver ensemble dans ce moment qui est un peu compliqué de la maternité, où on se sent un peu seul, c'est nous qui devons nous occuper de notre bébé, du coup on a le temps de rien faire en dehors de ça. Et moi j'ai monté une asso où je les faisais venir pour nager avec tous les bébés dans les cosies. Elles sortaient allaiter le bébé, je leur donnais le biberon et puis en même temps je leur enseignais la natation. Ça leur permettait d'avoir une petite heure pour elles et en même temps de se retrouver entre femmes avec, avec leur enfant et puis derrière sans leur enfant une fois qu'elles avaient réussi à donner le bébé au papa et de partir faire leur heure d'activité pour elles. Et puis petit à petit, cette association, elle a vu les enfants, les petits bébés en question grandir. Et les mamans m'ont demandé que je m'occupe de leur enfant. Et on a proposé une offre un peu originale où on gardait les petits-enfants pour leur apprendre à nager, sans vraie grande ambition, si ce n'est que de proposer ce mode de garde aux familles. Et en fait, je me suis rendu compte avec ma fibre sportive et l'amour pour l'enseignement que je me suis découvert aussi en faisant cette association, qu'en fait, en une semaine de temps, on était en capacité, avec des petits-enfants de 3-4 ans, puisqu'on les avait avec nous toute la journée, de leur apporter un enseignement très récurrent, de les mettre en relation avec le milieu aquatique plus facilement et de manière récurrente. Et qu'en une semaine, en fait, on arrivait à les rendre autonomes en grande profondeur et qu'on arrivait à leur faire traverser le bassin à 4 ans tout seul. Vous en avez peut-être entendu, je ne sais pas, dans votre cursus ou ceux qui viennent de la natation, il y a eu ces 4 dernières années un truc national qui s'est mis en place qui s'appelle l'aisance aquatique. Et c'était pour mettre ça en place, en fait, que j'ai été recrutée comme ministre des Sports par l'ancien Premier ministre, Édouard Philippe, qui m'a proposé de populariser cette méthode que j'ai développée au sein de mon association à toute la France. Et après la démission de Laura Flessel, il m'a proposé de devenir ministre des Sports avec ce thème-là qui était prioritaire, de lutter contre les noyades en popularisant l'aisance aquatique et de travailler avec le ministre de l'Éducation nationale à cette fin et arriver à faire aller à la piscine les petits-enfants dès l'âge de 3 ans dans le cadre de la maternelle et former tous les éducateurs à ce thème. Puis moi, je suis arrivée au ministère des Sports avec cette priorité en tête, qui n'avait a priori rien à voir avec le sujet dont on est en train de discuter aujourd'hui. Et il se trouve qu'un mois après mon arrivée, j'étais en train de relire d'ailleurs la première interview que j'avais donnée à ce sujet dans le journal 20 minutes, le 5 octobre 2018, un mois après, tout juste après mon arrivée au ministère. Et en fait, comme il y a eu un scandale aux États-Unis, un scandale des affaires et toute une révélation de ce qui se passait dans le milieu de la gymnastique, on m'a posé la question de est-ce que vous pensez que dans le sport, en France, quelque chose comme ça existe, de ce genre-là, qu'est-ce que vous en pensez en tant que ministre ? Bon, moi, ça faisait un mois que j'étais arrivée, je ne savais pas trop les us et coutumes. J'ai répondu avec ce que je pensais et j'ai dit, oui, évidemment, je ne vois pas pourquoi le sport serait épargné, pourquoi le sport serait une bulle, pourquoi ça ne se passerait pas dans le sport comme ça se passe ailleurs, d'autant plus que, pour plein de raisons qu'Élise vous a expliquées tout à l'heure, forcément, vous le savez tous, quand on est éducateur sportif, on est en relation avec le corps des enfants, on y a accès beaucoup plus facilement, il y a tout ce qui est aussi sacrifice au nom de la performance, pour la performance. Il y a aussi tout ce qui est emprise, isolement. Plus ça va vers le haut niveau, plus on s'enferme dans des duos entraîneurs-entraînés, dans des groupes qui partons en balade dans le monde entier sans vraiment que les parents aient quelque chose à dire ou l'entourage. Et que tout ça, forcément, ça favorise de l'entre-soi et ça favorise aussi une proximité où les limites dont je vous parlais tout à l'heure sont peu connu, mal connu, pas du tout connu, et très difficile aussi à mettre en place et à identifier. Donc je me suis exprimée là-dessus comme ça, et il y a eu un article qui est paru. Évidemment, quand quelqu'un qui est à cette position de ministre pose un sujet dans le débat public, y a des acteurs qui sont investis sur le sujet depuis des années, qui lèvent la main pour dire « mais en fait, si ce sujet-là vous intéresse vraiment, voilà ce que nous on fait et voilà notre point de vue ». Et c'est là qu'apparaît l'association qui sera présente tout à l'heure, Colosse au pied d'argile, dont vous en avez entendu parler, avec un garçon ancien rugbyman qui s'investissait sur le sujet parce que lui-même a été victime de violences sexuelles quand il était jeune dans le cadre de son club de rugby, et qu'il est venu nous voir au ministère en nous expliquant véritablement ce que lui avait constaté sur le terrain et comment il gérait le sujet, il venait faire des interventions, parfois quand il était invité, il n'était pas souvent invité, mais parfois il faisait des réunions comme ça où il expliquait, il témoignait de ce qu'il avait vécu. Et en fait, à la fin, il y avait une queue là, d'à peu près 10-15 personnes qui venaient lui raconter ce qui leur était arrivé dans le cadre sportif. Et donc il avait une visibilité sur une réalité du phénomène, il n'était pas statisticien, il n'avait pas mandaté des enquêtes super scientifiques, mais de son ressenti. Il était en train de me dire qu'il existe vraiment un phénomène tel quel et que j'avais eu raison de dire ça et que si je souhaitais prendre ce sujet à bras-le-corps, eh bien, il allait m'aider pour ça. Donc, comme je suis là aussi pour vous expliquer un peu comment on met une politique publique en place à partir d'un, voilà, d'un ressenti, d'une intuition ou d'une conviction personnelle. C'est aussi ça que je vais vous développer maintenant, en vous expliquant comment on a agi une fois que cette personne était venue nous voir avec son association et qu'est-ce qu'on a mis en place pour déployer une politique publique d'envergure qui, j'espère, continuera à porter ses fruits, parce que c'est pas parce qu'on part que, heureusement, toutes ces actions s'arrêtent, mais derrière, ça peut se poursuivre. Et ça revient à mon introduction. Moi, j'ai envie que ça se poursuive avec vous et par vous et grâce à vous. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a mis en place avec cette association qui était venue nous voir ? Lui était bénévole. Il avait un réseau de juristes, d'avocats et de personnes écoutantes bénévoles autour de lui. Il n'y avait aucun poste salarié dans cette association. Donc, on a dit, on va vous aider vous-même à avoir un revenu, un statut pour pouvoir vous engager à faire le tour de tous nos établissements. Vous connaissez l'INSEP, les CREPS, tous ces établissements régionaux où on accueille des jeunes sportifs. Vous allez aller porter cette parole, mandatée par nous, dans tous nos établissements d'État qu'on finance. Et on va vous donner une subvention pour ça. Comme ça, vous allez pouvoir un peu commencer à vous structurer. Donc, on a démarré par ce tour de France où il nous faisait des rendus réguliers des interventions pour qu'on puisse mesurer le phénomène, parce que c'est ça qui est d'abord important, c'est d'avoir une idée du phénomène, quel est-il et comment ça peut se passer. Et effectivement, on s'est très vite rendu compte que c'était véritablement une réalité et on a commencé à définir un peu une stratégie d'action. Donc inévitablement, au lieu que ce soit la queue devant lui et que ce soit lui qui répercute tout, on s'est dit on va commencer à mettre une cellule en place de signalement. Donc ça a été évoqué aussi tout à l'heure par Élise, je crois, une cellule Signal Sport que j'espère vous connaissez tous maintenant, parce qu'elle ne s'adresse pas qu'aux clubs sportifs, mais aussi aux écoles, aux établissements universitaires et toute violence que vous pouvez détecter dans le champ sportif, vous devez la signaler. De quoi ? Qui a entendu parler de Signal Sport ? Ah, oh, mon Dieu ! Bruno, au secours ! Donc, c'est une cellule au ministère des Sports qui se matérialise par une adresse mail, en fait, où vous pouvez témoigner. Alors, c'est pas un truc... où il n'y a rien derrière, il y a des gens de l'administration, du ministère qui écoutent tout, enfin qui lisent tout, et qui derrière rappellent, si jamais ce n'est pas un mail anonyme, qui rappellent pour avoir plus d'informations. Et il y a eu un engagement très fort de l'État pour dire à chaque fois qu'il y a un report d'affaires qui est fait, on enclenche ce qu'on appelle une enquête administrative de manière systématique. Puisqu'en fait, pour arriver à enquêter, il y a ce qu'on appelle des procédures. Il y a une procédure disciplinaire qui peut être enclenchée par les fédérations, une procédure administrative qui peut être enclenchée par les administrations des différents ministères et une procédure judiciaire qui peut être enclenchée par la justice. Et ces trois procédures, elles s'imbriquent et il est impératif que ces trois procédures puissent agir ensemble pour qu'il y ait vraiment, effectivement, si on attend que la justice condamne, comme c'est un phénomène récent, comme il y a plein de dossiers en attente, comme la justice est indépendante, comme les magistrats ont aussi besoin d'être formés, ceux qui portent l'accusation, mais ceux aussi qui jugent, ça prend beaucoup de temps. Mais il y a des mesures dans le sport, il faut que vous le sachiez, qui relèvent de l'administration et qui s'appellent des mesures conservatoires, où une personne qui est incriminée dans un club et qui en fait, a des agissements... hors la loi, elle peut être écartée du contact avec les mineurs, maintenant grâce à la loi, jusqu'à ce qu'il y ait un jugement prononcé par la justice. Et donc, il y a des commissions qui se réunissent, une fois que le signalement a été fait, pour que ces personnes dans la commission décident de donner cette mesure conservatoire de 6 mois, plus 6 mois. Avant, c'était ça. Et nous, on a changé la loi pour que ces mesures conservatoires aillent jusqu'au prononcé du jugement et que la personne en question puisse être éloignée à minima du contact avec les mineurs, voire interdite d'exercer, en fait, en tant qu'éducateur sportif, même si le jugement n'a pas été rendu. Donc, c'est pour bien vous mettre en évidence qu'il n'y a pas, et je le répète, parce que je l'ai entendu de la bouche de tous les présidents que j'ai reçus au moment où ces affaires sont sorties, il n'y a pas de présomption d'innocence qui tienne. Ça n'existe pas. Il y a une présomption de crédibilité qu'on doit avoir et on doit croire les enfants qui ont été victimes de violences. Et tous les présidents qui venaient me voir au début en mode ouais, mais vous comprenez, Madame la ministre, moi, ce n'est pas moi le juge. Moi, je dois me fier à la présomption d'innocence. Je ne peux rien prendre comme mesure. Ce n'est pas possible. Comme si, en fait, il était là, ou je dis il, parce que souvent, c'était que des hommes quasiment à la tête des fédérations. Il disait, en fait, moi, je dois être soit impartial, au mieux, soit protéger quand même cet entraîneur, parce que c'est quand même quelqu'un qui ramène des médailles. Hein, donc vous comprenez que je ne peux pas m'en séparer là tout de suite, parce qu'il y a les Jeux quand même, dans 3 ans. Et c'est un peu compliqué, quoi. Vous comprenez ma position, parce qu'en plus, il y a la présomption d'innocence. Et comme je ne suis pas juge, je lui disais, justement, vous n'êtes pas juge, en fait. Vous êtes président d'une fédération. Une de vos prérogatives, c'est de veiller à l'intégrité de vos pratiquants, à la sécurité, à l'intégrité physique et morale de vos pratiquants. Ce n'est pas assez bien écrit, apparemment, hein, dans ce qui lie votre fédération à notre ministère. Donc, ne vous inquiétez pas, on va retoucher ce truc-là qui vous lie à nous, pour que vous le voyez vraiment en grand, que c'est ça votre priorité. Mais je ne peux pas vous laisser dire des choses comme ça, quoi, quand il y a des témoignages qui nous arrivent, parce que les témoignages, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, une fois que Colosse est allé se balader partout et qu'on avait des retours directs des victimes, parce que l'affaire Disclose aidant, Sarah Abitbol qui a écrit son livre, parce que des témoignages qui nous arrivaient en direct à nous par téléphone pour nous dire voilà ce que j'ai subi, voilà ce que j'ai vécu. Quand on a tous ces témoignages en main et qu'on a devant nous des présidents de fédé qui vous tiennent ce discours-là, c'est juste schizophrène, quoi, en fait. On est complètement... c'est ahurissant, quoi. Donc, à un moment donné, on a décidé de s'attaquer à ce sujet des fédérations. Très vite, d'ailleurs, puisqu'on s'est rendu compte que c'était le principal sujet. On était soit dans la bienveillance, j'ai adoré, parce que ça m'a fait référence à... J'avais très bien en tête un président de fédération qui était venu entouré de 5 femmes autour de lui, en mode, vous voyez bien, Madame la ministre, que je suis entièrement féministe et que chez moi, ça se passe pas du tout comme ce qu'on entend ailleurs, parce que moi, elles sont très gentilles, les femmes qui sont là, et puis je les accompagne de manière très, très forte pour qu'elles puissent monter en compétences, vous comprenez, pour qu'elles soient aussi compétentes que moi. Et en tout cas, je suis vraiment dans votre lignée. Donc, il y avait ce type de président-là. Et puis, il y avait aussi des présidents qui arrivaient en mode très sûr d'eux, en disant... En gros, c'était le juge de paix, en disant, de toute façon, comme c'est les adultes qui parlent contre des enfants, évidemment que je vais écouter les adultes, parce que les enfants, vous comprenez, c'est des enfants, quoi. Et c'était très, très, très problématique. On a passé une très mauvaise moitié d'année en 2019 à essayer de convaincre ces présidents. On s'est rendu compte que ça n'allait pas pouvoir le faire juste comme ça. Donc on a eu la chance de pouvoir, grâce au soutien des médias, mettre en balance ce qu'on appelle la délégation de service public que l'État donne à des fédérations, notamment pour la fédération de patinage artistique, où là il y a eu des cas qui nous sont remontés, qui allaient de la violence ordinaire vers les jeunes un peu répandus dans tous les clubs, de l'emprise jusqu'à aux violences les plus horribles sexuelles dont je laisserai Sarah Abitbol vous détailler le contenu par son propre témoignage d'ici quelques temps. Et donc ce président de fédération qui, une fois, deux fois, trois fois devant moi, me disait « Non mais en fait, vous comprenez, Madame la ministre, en fait, il faudrait qu'on en parle un petit peu moins de tout ça parce que vous, vous êtes là aussi parce qu'il y a les Jeux bientôt. » Bon, c'était les Jeux d'été, il n'avait pas compris, mais et qu'en fait, ça allait nuire vraiment quand même beaucoup à l'image du sport, tout ce que j'étais en train de dire. Au bout d'un moment, on a dit, écoutez, monsieur, on va retirer la délégation à votre fédération. Et donc là, c'est posé la question de quel est le pouvoir qu'a un ministère par rapport à des fédérations. Et donc tout ça, j'imagine que c'est une question que vous allez me poser tout à l'heure, donc je me garde la réponse pour tout à l'heure pour vous expliquer techniquement comment ça s'est passé. Mais en gros, si on reste dans le témoignage, ce monsieur, on a demandé publiquement qu'il démissionne, sachant que vous avez vu aussi les derniers débats avec la fédé de rugby, de foot, avec la nouvelle ministre, où en fait, c'est très compliqué de faire démissionner de renvoyer. On ne peut pas renvoyer un président parce qu'on est ministre, on ne peut pas dire à un président de fédé, tu t'en vas. On n'a pas ce pouvoir-là. Donc il faut trouver des moyens de mettre la pression en interne pour que ce soit les gens qui ont élu le président qui, à un moment donné, lui font comprendre qu'il doit démissionner. Ou que de lui-même, Moi, j'y croyais au début, hein, que de lui-même, ils allaient se rendre compte et qu'ils allaient démissionner. Mais il y a dans des cas vraiment, vraiment extrêmes où tu as quand même des gens qui sont capables de te dire, mais non, mais en fait, bon, c'est un petit moment mauvais à passer. Mais de toute façon, comme vous êtes à peu près la dixième ministre en poste que je vois, puisque moi, je suis là depuis 40 ans, hein, et que vous êtes là pour aller max un an et demi, vous comprenez bien que, bon, on va se revoir au rendez-vous prochain. Je ferai quelques petites modifs, mais... voilà, j'attendrai juste que vous tombiez pour repartir de plus belle en avant. Donc là, nous, on s'est rendu compte, du coup, avec Cécile, parce que voilà, elle est là et je voulais vraiment l'en remercier personnellement parce qu'elle a beaucoup, beaucoup travaillé sur le sujet, qu'il fallait agir au niveau de la loi, au niveau des règlements, au niveau de tous les documents qui feront que maintenant que c'est inscrit dans la loi, on ne pourra plus revenir en arrière. Donc on a fait tout ce qu'il fallait faire, et pour ne pas en oublier, je vais prendre mon petit doc pour vous dire les mesures d'urgence qu'on a prises en 2019. Donc on a créé la cellule de recueil et d'instruction des signalements au sein de l'administration centrale. Je vous en ai parlé tout à l'heure, Signal Sport, j'espère qu'on leur donnera l'adresse et que vous en ferez le relais pour leur dire où et comment ça existe. On a déclenché des inspections générales, donc on leur a mis les inspecteurs aux fesses à toutes les fédérations où il y avait des problèmes vraiment prégnant qui nous avait été reporté par les sportifs eux-mêmes, donc les sports de glace, le judo, la moto, le FFE, c'est l'équitation. On a engagé des procédures de retrait d'agrément de délégation, notamment à l'encontre des sports de glace. On a déclenché systématiquement des enquêtes administratives avec nos services déconcentrés, ce qui n'était pas du tout le cas avant, puisqu'en fait il y avait des choses qui étaient entendues, mais bon. Comme souvent, les gens des fédés travaillaient aussi dans nos services déconcentrés du ministère et inversement, parce que je ne sais pas si vous savez, mais le ministère des Sports est organisé de manière assez particulière. La moitié des agents du ministère des Sports, qui s'appellent les conseillers techniques sportifs, c'est des fonctionnaires d'État, travaillent dans les fédérations. Donc on a 1500 personnes sur 3000 en tout au ministère qui sont dans nos services déconcentrés et nationaux, qui sont dans les fédés. Normalement, ils sont censés surveiller, travailler sur ce qu'on appelle les missions régaliennes de l'État à l'intérieur des fédés. Sauf que, dans la vérité, c'est souvent des anciens sportifs qui ont passé le diplôme pour devenir conseiller technique sportif. Et donc, forcément, ils demandent à être affectés dans leur propre fédé d'origine. Bon, autant vous dire que même parmi les conseillers techniques qui sont des cadres d'État et normalement garants des choses importantes que je suis en train de vous dire, bah, autant vous dire qu'ils étaient aussi parfois impliqués dans des affaires, qu'ils couvraient des affaires et qu'ils ne se sentaient pas du tout... par exemple, ils ne connaissaient pas la loi, parce que vous savez que tout fonctionnaire d'État, toute personne habilitée et à qui on donne une mission de service public, doit utiliser ce qu'on appelle un article 40, doit faire référence à un article 40, et il est obligé de signaler, obligé à la justice, quand il a connaissance, dans le cadre de ses missions, de ses fonctions, des faits de violence. Par exemple, si demain vous êtes employé par l'État, que vous devenez cadre technique ou que vous êtes dans l'éducation nationale, évidemment, hein, pour la plupart d'entre vous aussi, ou dans l'enseignement supérieur, vous êtes obligé et tenu par l'article 40 de signaler. Vous ne pouvez pas dire mais je pensais que c'était une rumeur et puis je ne suis pas allé vérifier. Et puis voilà, si vous avez le moindre soupçon, vous pouvez être tenu pour responsable si vous ne signalez pas. Donc ça, on leur a rappelé aussi, hein, évidemment, à tous nos cadres techniques d'État, ne serait-ce que ce rappel à la loi, et le fait qu'il faisait partie prenante de la chaîne de détection de signalement. On a nommé une déléguée ministérielle, donc une dame qui est maintenant directrice des sports, Fabienne Bourdet, qui était censée faire le lien beaucoup mieux entre les fédérations et l'État sur ce sujet, parce qu'il y avait aussi là des dysfonctionnements, et vérifier que tous nos services déconcentrés faisaient bien leur travail. Et on a généralisé le contrôle d'honorabilité des bénévoles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Quand vous avez un diplôme d'État, votre casier judiciaire est contrôlé avant de vous délivrer le diplôme. Et donc, on va vérifier si vous n'avez pas été condamné. Alors, ça peut aller de conduite en état d'ivresse, consommation de stupéfiants, à aussi violence sexuelle, qui figure dans un fichier qui s'appelle le fichier FIGES, où figurent toutes les condamnations pour les personnes qui ont été condamnées à plus de 5 ans pour une infraction sexuelle sur mineur. Et donc ce fichier est normalement vérifié quand vous êtes éducateur sportif, Mais vous savez bien que dans tous les clubs, il y a plein de gens qui enseignent et qui sont en contact d'enfants qui ne sont pas éducateurs sportifs avec un diplôme d'État. Soit ils ont un diplôme d'éducateurs fédéraux, où cette obligation de contrôle de l'honorabilité n'existait pas. Et aussi des bénévoles, ce qu'on appelle des bénévoles, des anciens sportifs, le papa d'un tel parce qu'il adore venir au bord du bassin et entraîner, même s'il est déménageur, puisqu'on a cité ce métier-là tout à l'heure, on pense qu'il sait bien s'occuper d'enfants et puis il a un bon contact avec les enfants, donc on va le laisser entraîner des petits. Ça existe dans plein d'associations encore aujourd'hui. Donc c'est important d'une part de plaider pour la professionnalisation du sport, pour que ce soit des gens diplômés qui enseignent. Parce qu'évidemment, encore la semaine dernière, je discutais avec un monsieur qui me disait « Mais c'est quand même incroyable que vous ayez mis en place maintenant tellement de systèmes contraignants et que les bénévoles ne puissent plus enseigner le sport et que vous demandiez des diplômes et des formations aussi pour les bénévoles pour arriver à enseigner une activité sportive comme la voile qui est quand même un truc que tout le monde peut faire. Voilà, si on est spécialiste de voile, on n'a pas besoin d'avoir un diplôme, quoi. » En fait, on est en France, c'est super le bénévolat. Moi, je suis pour, c'est génial. Le sport n'existerait pas s'il n'y avait pas le bénévolat. Mais à un moment donné, il faut aussi, et je suis à l'aise de vous le dire devant vous qui passez des diplômes pour devenir éducateur sportif, le bénévolat, c'est aussi une plaie pour le monde du sport contre lequel il faut... il faut remettre les choses à leur place. Évidemment, on a besoin que les bénévoles s'engagent et fassent, y compris de l'enseignement. Mais il faut à minima un équilibre et à maxima dire les choses telles qu'elles sont. Il faut être en compétence et en capacité d'enseigner une discipline sportive dans les règles de sécurité et surtout dans les règles qui, j'espère, demain deviendront des règles de sécurité pour vous, qui sont du respect de l'éthique et de l'intégrité des pratiquants et des pratiquantes. Et ça, c'était pas encore et c'est pas encore dans l'état d'esprit de tout le monde, y compris des dirigeants fédéraux. Et il faut que ça le devienne. Alors, pour revenir à ce qu'on a fait, donc on a fait ce qu'on appelle une mobilisation politique, ça veut dire remettre le sujet dans l'actualité de manière régulière, que les médias en parlent, qu'ils viennent écouter les mesures de tout ce qu'on, de tout le travail qu'on faisait. Donc on a fait 3 conventions nationales à partir de février 2020, en avril 2021, mars 2022, où on a témoigné à plusieurs ministres de tout le travail qu'on a fait en interministériel, parce que j'ai pas fini de vous dire tout à l'heure, le croisement des fichiers là, qui se faisait pour les éducateurs sportifs, on a décidé de le faire avec le ministère de la Justice pour les 2 millions de bénévoles en France. Donc maintenant, aujourd'hui, tous les clubs de toutes les fédérations sont obligés de renvoyer en national, à leur fédé, le nom, l'adresse et un certain nombre de données sur tous les bénévoles qui sont en contact d'enfants dans leur association. Que ce soit pour les conduire en compétition parce qu'ils conduisent le minibus, que ce soit pour aider dans les vestiaires, que ce soit pour entraîner, que ce soit pour faire des animations ponctuelles de temps en temps. Tous les adultes au contact d'enfants doivent montrer... on doit pouvoir aller contrôler leur casier judiciaire. Et c'est quelque chose, vous en rendez pas compte comme ça, mais à l'échelle de 140 fédérations sportives, c'est un travail énorme pour contrôler le casier de 2 millions de bénévoles en France. Mais c'est nécessaire parce que ce que nous a dit et le constat que nous faisait Colosse au pied d'argile, c'est que les bénévoles, ils se baladent et les agresseurs et notamment les personnes pédocriminelles se baladent de club en club, changent de territoire, échangent de discipline parce qu'évidemment, c'est juste, quand tu es dans le milieu sportif, tu as à disposition des milliers d'enfants et tu peux faire comme bon te semble. Le sport, si jamais tu ne contrôles pas les bénévoles, c'est toutes les portes sont ouvertes, quoi. Donc on a fait ces temps ministériels, on a travaillé sur la prévention, la sensibilisation dès la rentrée 2020. Pour faire des campagnes de com, des affiches, des flyers à distribuer sur tous les forums des associations, dans les clubs. Vous savez, à la rentrée sportive, vous connaissez les forums des assos ou les installations sportives où on pourrait afficher des affiches comme ça. Je ne vous raconte pas le mal qu'on a eu avec les grandes instances sportives de ce pays, pour qu'elles puissent ne serait-ce qu'accepter d'imprimer les choses qu'on a faites pour les distribuer dans leur club et de les diffuser. À un an des Jeux, c'était surtout pas de ça dont il fallait parler en France, parce que c'était un sujet qui allait ternir l'image du sport, évidemment. Ensuite, on a pris, comme je vous ai dit, des mesures pérennes. Alors, les mesures pérennes, c'est quoi ? C'est aussi travailler ce sujet dans un spectre plus large. Pour moi, protéger les enfants et les femmes, ça fait partie aussi de ce thème pour lequel vous êtes beaucoup présents ici, c'est l'égalité entre filles et les garçons. Parce que, de fait, si on ne protège pas les femmes dans le milieu sportif dans lequel elles évoluent, bah, elles n'auront pas non plus envie de s'impliquer derrière. On parlait d'envie de faire ces métiers-là. La première des envies, c'est de se sentir bien, d'avoir un cadre qui te permet d'exercer ton métier, de ne pas te sentir humilié à chaque fois que tu ouvres la bouche ou qu'on te dise « bon, bah, en fait, c'est bon, là, ça fait déjà 5 minutes que tu parles, laisse la parole aux hommes, parce que dans cette réunion, il y a des choses importantes qui doivent être dites, quoi, hein, tu vois. » Donc, si... À chaque fois, ça arrive. Bah, évidemment, toi, en tant que femme, quand tu entends ça au-dessus de toi, tu n'as pas tellement envie de t'impliquer dans ce milieu-là. Donc déjà, il faut que le cadre, comme vous l'avez dit, Élise, bah, faut qu'il donne envie de t'impliquer quand tu es une femme. Il ne faut pas que tu aies subi des violences, parce que tu n'as juste pas envie de rester dans le même secteur que là où tu t'es fait violer, hein, c'est sûr. Et donc, pour moi, c'est la première des prérogatives, c'est de protéger les publics les plus fragiles, et je ne veux pas dire les femmes, parce que là, dans le sport, on est bien servi, autant les garçons que les filles subissent des violences. Hein. Donc, se battre contre les violences, c'est déjà un premier pas pour aller vers l'égalité. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait ? On a, la dernière loi qui a été passée sous mon mandat, on a inscrit dans la loi, et je ne sais pas si vous le savez, 50%, on n'en est plus au quota, on est vraiment dans une inscription dans la loi de 50% de femmes, 50% d'hommes, dans les instances fédérales nationales de décision. Et ça, c'est à partir de l'année prochaine, en 2024, toutes les fédérations vont devoir se conformer à cette loi 50-50. Dans les organes déconcentrés, parce que ça ne suffit pas au niveau national, on s'est rendu compte qu'il faut évidemment descendre jusqu'au niveau local pour pouvoir inciter plus de femmes à se présenter, obliger les hommes en place à aller chercher des femmes. Bah, on l'a mis jusqu'au niveau régional. Ça, c'est par contre ça va être applicable en 28, puisque évidemment, bah, on nous a rétorqué, vous comprenez, en un an, on ne pourra pas chercher dans toutes les régions 50% de femmes. Comme si, parce que c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit, vous comprenez, avant, il y avait un truc qui était vachement bien. Quand c'était un sport masculin, bah, il y avait un quota pour aller que jusqu'à 25%, parce que comme c'est un sport masculin, c'est vachement dur d'aller chercher des femmes. Et quand c'est un sport un peu féminin, bah, on va jusqu'à 40, pas à 50 quand même, faut pas exagérer, mais on va jusqu'à 40 parce que c'est un sport féminin et on peut plus facilement trouver des femmes. Et là, moi, j'ai dit, bah, je sais pas, moi, mon fils, il fait du foot. Je suis dans une asso, je vois pas pourquoi. Ok, c'est un sport masculin et dans mon club là où on habite, c'est vrai qu'il y a pas de section féminine, mais je vois pas en quoi on pourrait pas faire appel à moi en tant que maman de mon petit garçon pour m'investir dans l'asso. Pourquoi on ferait appel à son père pour s'investir dans l'asso et donc de fait être soumis qu'à 25% de quota dans la gouvernance. Bon, ils n'ont pas su quoi répondre, donc du coup, là, j'ai gagné. Mais par contre, dans les instances régionales, comme on m'a dit, au niveau fédéral, ça va être dur parce qu'on n'a pas trop la main quand même sur les comités régionaux, donc on ne va pas trop leur imposer beaucoup de choses depuis le national. Donc, on va attendre 4 ans de plus. Donc, ça va être applicable en 2028, la parité, parce que la parité, bon, ça peut aussi attendre 4 ans quand c'est dans les régions, mais en national, comme on est très motivé, ça peut attendre que 1 an. Donc voilà, en 2028, au niveau régional, on va être à parité. Après, on a mis en place, tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'il y a un truc qui lie, et je voulais, pour terminer, vous en parler, et puis après, je vous laisserai poser des questions, et je répondrai surtout à vos questions avec le reste qui me reste à dire. Il y a la délégation de service public, donc l'État donne délégation de service public à environ 80 fédés. Ça veut dire que pour le compte de l'État, ces associations, puisque c'est des associations, ont la possibilité de délivrer un titre de champion de France, donc d'organiser tout le système de compétition pour arriver à délivrer le titre de champion de France, sont habilités à faire une sélection pour envoyer dans les compétitions internationales une équipe de France, et sont habilités à décrire et écrire les règles de pratique. Donc comment on fait du karaté, comment on fait de la natation, c'est eux qui sont garants de ces règles-là. Et finalement, ce qui reliait l'État et les fédés, c'était ça, principalement. Et en fait, la délégation, elle était donnée pour ça. Et c'était un peu une délégation. Il n'y avait rien d'écrit, en fait. Il n'y avait pas de document qui liait l'État aux fédérations. En échange de ça, elles avaient le monopole. Donc les fédés ont le monopole pour leur discipline pour le faire. Elles ont aussi d'autres avantages financiers, je crois, au niveau de la TVA et tout ça. C'est ça, ils ne sont pas soumis à TVA. Donc ils ont un certain nombre d'avantages pour être une fédé délégataire. Et nous, on a changé cette date fête parce que franchement, à entendre les présidents nous dire on est tenu par ça, alors regardez le nombre de licenciés qu'on a. On a très bien travaillé parce qu'on a recruté plein de nouveaux licenciés. On a des super médailles. Alors normalement, vous devriez être contente parce qu'on a plein de nouvelles médailles là. Et puis, on s'entraîne bien pour les Jeux en France. Mais il n'y avait rien d'autre, en fait. Il n'y avait pas de prise de conscience sur ce qu'était la protection des publics, sur ce que pouvait apporter un grand événement organisé en France en matière d'égalité femmes-hommes, en matière de vitrine pour le sport féminin et des choses comme ça. Et donc, on a décidé d'écrire dans la loi que toute fédération était tenue de signer un contrat de délégation avec le ministère où il pouvait mettre à l'intérieur ce qu'il souhaitait sur différentes thématiques, dont la protection des publics et la lutte contre les violences sexuelles dans le sport. Donc maintenant, on leur a passé le flambeau aux fédérations en mode maintenant, vous êtes obligés de nous dire quelque chose, parce que si vous nous dites rien en retour, j'ai même plus besoin un ministre n'a plus besoin de vous menacer de retirer la délégation. En fait, vous l'aurez même pas, la délégation. Donc vous n'êtes plus une fédé si jamais vous nous produisez pas des plans d'action avec des indicateurs précis, si vous nous montrez pas que vous vous engagez sur ces sujets. Et il y en a d'autres, comme le respect, enfin le développement durable. Il y avait 5 thèmes, il n'y a pas que ça, mais la protection des publics est devenue un truc central dans la vie fédérale, et ils ont obligation, évidemment, non pas de le faire qu'à la Fédé, mais d'impliquer toutes les associations, toutes les ligues départementales et régionales sur ces thèmes. Alors maintenant que je suis plus au ministère, je le vois un peu quand même, il y a des choses qui ont changé vraiment sur le terrain. Ça va pas aussi vite que ce que j'aimerais, ce que tout le monde aimerait, mais il y a beaucoup de choses qui changent parce que maintenant c'est dans la loi, et de toute façon ils vont devoir s'y conformer. Et voilà. Alors après, on a fait d'autres choses, mais je pense que je vais vous laisser la parole, que vous me disiez un peu ce que vous pensez de tout ça, et je vais vous répondre au fur et à mesure. J'ai rien oublié, Cécile, d'important ? Ouais, dans les établissements, pareil, on a signé la même chose avec les établissements qu'on subventionne. Alors, on n'est pas les seuls à subventionner les établissements, il y a aussi les régions, principalement, qui sont responsables de ces CREPS. Et dans ces établissements, évidemment, il faut qu'on... Enfin, sur ce sujet, de manière générale, il faut qu'on recueille l'assentiment de tout le monde, des collectivités, des maires, des présidents des conseils régionaux, départementaux, pour travailler sur ce sujet où j'avais l'habitude de dire, c'est un sujet qui nous concerne tous, en fait. Voilà, on est tous concernés et tous responsables. Donc, à tous les niveaux, il faut qu'on s'engage. Nous, on a essayé de donner à notre niveau une impulsion en l'opposer dans le débat public. Et maintenant, place à vous. Et c'est vous qui devez vous en saisir avec les quelques billes qu'on peut vous donner, nous, à notre niveau.